Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Et si on traversait dans ce dernier entretien de la semaine et cette série sur, au fond, le thème de la colère, traverser sa colère, c'est le titre de ce petit traité spirituel paru aux éditions des Béatitudes. L'auteur est Pierre-Marie Castaignos, que vous entendez depuis le début de la semaine. Bonjour Père.
Bonjour Nathalie.
Alors, ravi de vous retrouver.
Ravi aussi.
Merci pour toutes les clés à la fois de psychologie que vous nous avez transmises et puis rappeler aussi cette question qui est cette connaissance de soi-même, mais en vue du salut.
Du salut.
Tout ce mystère aussi de l'incarnation et tout ce mystère aussi du sauveur, car nous avons un besoin d'un sauveur, plus que au fond les thérapeutes, la psychologie est un outil, est un service,
est un
au
outil,
service de l'humain et de l'homme.
Mais ne va pas réparer tout.
Oui. Dans ce dernier entretien, on va voyager, on va revenir vers des personnages importants de l'Ancien Testament. Vous les nommez et vous y revenez. On va revenir sur Cain et Abel et puis sur l'expérience Job. Aussi de Job. Hein.
Voilà. Ça. Oui, c'est dans ce passage-là, c'est de l'accusation à l'émerveillement. C'est justement traverser la colère, c'est là, c'est passer de l'accusation. L'accusation, je crois que c'est quelque chose, d'exprimer contre Dieu de la colère, être en colère contre Dieu. Et ça, je pense que ça vient aussi du fait que l'on croit en un Dieu tout-puissant. Et parce qu'il est tout-puissant, on dit, mais pourquoi est-ce qu'il peut pas faire quelque chose dans la situation injuste dans laquelle je suis et qui provoque ma colère, etc. Donc du coup, le fait d'être croyant nous donne plus d'occasion d'être en colère contre Dieu, évidemment, pour que l'incroyant qui ne croit pas à l'existence de Dieu, mais le fait, parce que nous avons une solution potentielle avec la foi, etc. Et donc, parfois, dans notre prière, etc., on s'adresse au Seigneur et ça ne vient pas et ça provoque notre colère. Et évidemment, celui qui est le grand signe de ça dans la Bible, dans l'Ancien Testament, c'est Job. Hein. L'amour des ennemis prêché par le Christ s'applique aussi à Dieu, comme dans le récit de Job, un Dieu qui accable injustement son serviteur. Et pourtant, Job ne trouvera refuge qu'en ce Dieu qui l'accuse. Je trouve ça intéressant de dire ça. C'est de dire, au fond, quand on voit le livre de Job, qui fait partie des livres de sagesse, il y a toutes les souffrances que vous vous rappelez. Il a été privé. Il y a eu le décès de sa femme. Il y a eu le décès de ses enfants. Il y a eu la perte de tous ses serviteurs, la perte de toutes ses richesses matérielles. Et puis aussi dans son corps, il a été atteint, etc., etc. Et on voit qu'il y a un cri de colère. Et comme il y a besoin d'un visage aussi vers lequel s'exprimer, vers lequel se tourner. Et c'est le visage du Seigneur. Et donc c'est intéressant de voir que dans Job, comment il renvoie. Parfois, il a des paroles très fortes. Là. Je vais peut-être pas citer là, mais Job qui dit qu'il ne se soucie pas Dieu de là-haut. Voilà, il renvoie Dieu dans son ciel. Voilà, donc voir à un moment donné, il dit toi qui n'es même pas saint, toi qui n'es pas juste, etc. Des paroles pratiquement blasphématoires. Donc là, le fait d'être en colère contre Dieu. Et passer de l'accusation à la colère, ça commence d'abord par pouvoir exprimer aussi cette colère. Au tout début, je vais vous lire un passage d'Elie Wiesel aussi, que vous connaissez certainement de nom, quand il dit « Béni soit le nom de l'Éternel, pourquoi le bénirais-je ? Toutes mes fibres se révoltaient parce qu'il faisait fonctionner six crématoires jour et nuit, les jours de Shabbat et les jours de fête, parce que dans sa grande puissance, il avait fait Auschwitz, Birkenau et Buna, et tant d'usines de mort. Moi, le mystique de jadis, je pensais, oui, l'homme est plus fort, plus grand que Dieu. » Donc, qui est blasphématoire comme parole, mais quand on est face à un degré de souffrance, de violence, d'injustice, comme les camps de la mort, etc., Elie Wiesel, il se fait le porte-parole de tous ceux qui ont vécu ces moments de grande impuissance, le silence de Dieu, qui est très fort dans la spiritualité juive aussi, par rapport à cette période-là de l'histoire, et de dire, mais pourquoi, en fait, et c'est vrai que là, pour le coup, notre vie, elle est absurde ou notre vie, elle est mystère. Si vous voulez, il y a un choix à faire. Et la psychologie ne va pas répondre au mystère du mal. Ça, elle est absolument incompétente pour répondre au mystère du mal. Ce qui va répondre au mystère du mal, pour nous comme chrétiens, évidemment, c'est le mystère de la croix. Mais déjà dans l'Ancien Testament, de voir comment à travers le livre de Job, il s'est lâché, si je peux employer cette expression, il s'est lâché contre Dieu et progressivement il est parti, et une fois qu'il a purgé sa colère, une fois qu'il a dit toute sa rancœur, une fois qu'il a même blasphémé, eh bien, il écoute Dieu et qui relate la création. Et la contemplation de la création, c'est-à-dire l'émerveillement, le fait traverser sa colère. Dieu lui dit, ne le condamne pas parce qu'il a été dur avec lui et a employé des mots très forts, et jamais il ne condamne Job. Mais il a laissé parler. C'est toujours important de laisser parler quelqu'un qui est en colère. Faut pas l'interrompre parce que c'est pire. Et Dieu n'interrompt pas l'homme en colère que Job. Et du coup, il a laissé parler jusqu'au bout. Et ensuite, une fois qu'il a épuisé, pour ainsi dire, sa rancœur, sa rage, sa bronca qu'il avait dans son cœur pour avoir tout perdu, etc., lui qui était l'homme juste, eh bien, Dieu lui a parlé. Et il a parlé et il a dit la beauté de la création, il a dit la grandeur de l'œuvre de Dieu, etc. Et ensuite, il a conduit quelque part Job vers l'émerveillement. Et je trouve que ce passage de l'accusation à l'émerveillement, c'est ça, traverser sa colère.
C'est très beau comme la manière dont vous avez présenté aussi ce cri de Job qui est allé jusqu'au blasphème. Et finalement, cette image de Dieu dans sa paternité qui, comme un père, va prendre pour position une attitude silencieuse. Oui. Le père qui écoute le fils.
Oui, exactement. Et
est-ce qu'on sait écouter ? C'est toute la question aujourd'hui de l'écoute. Alors, on parle beaucoup de formation, d'écoute active, mais où j'en suis aujourd'hui dans l'écoute de mon frère, de ma sœur, de celui qui est à mes côtés ?
Et quand l'autre vit une situation absurde, comme celle que relate Job et comme celle que relate Elie Wiesel dans le petit paragraphe que je viens de lire, etc., c'est important de dire, oui, il y a des choses qui sont absurdes. Il y a des choses qui, dans notre vie, le mystère du mal, ce qu'on appelle le mystère d'iniquité en théologie, c'est-à-dire la question du mal dans le monde, c'est absurde. Et la question, évidemment, du mal qui affecte le Christ, c'est absurde. Complètement absurde. Et c'est intéressant de dire, de traverser cet absurde, mais en fait, à un moment donné, il y a le choix de la foi qui dit aussi que notre vie, elle peut être mystère. C'est-à-dire que soit elle est absurde, soit elle est mystère. Et comme croyant, nous pensons que notre vie porte quelque chose. Mystère, ça vient du grec muo. Muo, ça veut dire caché, ça veut dire fermé, voilà, comme myope. Myope, quelqu'un qui est myope, qui ferme les yeux, etc. Il y a quelque chose qui ne nous est pas encore révélé. Mais le Christ, justement, par sa croix, vient porter l'absurde du monde et l'offrir au Père dans l'amour. Donc, c'est sûr que comme chrétien, on a tout à fait une autre approche. Oui, la psychologie, on l'a vu, nous rend des services. Mais elle arrive là, face au mystère de la croix.
Elle ne conduit pas au mystère du salut, c'est le mystère de la croix.
Et face à la croix, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut rien dire. Face à la souffrance du juste, c'est tout le drame de la Bible. Qu'est-ce que faire de la souffrance du juste? Que faire de la souffrance du saint? Et du coup, et que faire de la colère du juste et du saint qui souffre? Et là, la dimension psychologique, elle arrive à...
Elle est sans réponse.
Elle est sans réponse. Et il n'y a qu'une dimension transcendante. Il nous faut une lumière supérieure à la lumière de notre raison pour pouvoir avoir un éclairage sur cette dimension-là.
Et au fond, vous nous donnez dans cette fin de série quelque peu la clé pour discerner cette traversée de la colère. Cette traversée ne peut se faire que dans cette verticalité, ce mystère de la croix.
Absolument.
C'est la grande clé.
C'est la grande clé. C'est la contemplation du Christ en croix, c'est l'offrande du Seigneur. Et c'est aussi, à travers la parole de Dieu dans Job, la contemplation du mystère de Dieu, de la grandeur de Dieu, de la beauté de Dieu, l'émerveillement. Et je trouve que ce passage-là de l'accusation à l'émerveillement...
L'émerveillement... est au pied de la croix.
L'émerveillement, il est dans la résurrection.
Dans ce mystère de la passion qui conduit au mystère de la résurrection.
Et oui, parce que ça ne s'arrête pas à l'absurde. Nous avons la clé à travers la foi en la résurrection
du
Christ.
Donc c'est cette lumière de la résurrection.
Et oui,
Mais qui passe par ce mystère.
Mon
qui
père,
peut,
pourquoi m'as-tu abandonné, etc.
Alors, ça, pour c'est... des non-croyants, ce mystère aussi de la mort du Christ en croix peut être aussi vu pour des non-croyants comme une absurdité, une faiblesse de Dieu.
Ben, ça nous interroge encore, nous, comme croyants. Ce n'est pas forcément simple d'accueillir ce Christ, ce Dieu, ce Messie en croix, impuissant, maltraité, mais qui, justement, il porte, il nous aide à traverser, parce que c'est lui qui a porté le péché du monde.
Et je pense que c'est cette dernière parole du Christ.
Et bien
aussi,
sûr,
on croit.
Les dernières paroles du Christ sur la croix, je trouve que c'est ça qui nous dit, voilà, comment on peut se glisser dans ces paroles et nous-mêmes aussi confier au Seigneur, lui qui a pris sur ses épaules, ce qui fait aussi notre impuissance aujourd'hui.
Eh bien, moi, j'invite les auditeurs, les auditrices, vraiment à se plonger dans ce petit traité, traverser sa colère. Merci de ce travail que vous avez mis par écrit, Père Marie Castaignos. Merci aussi pour ces échanges que nous avons eus. Merci pour toutes les clés, hein, voilà, à la fois de psychologie et puis aussi ces clés spirituelles, car on a un sauveur et puis il y a un plan de salut.
Et bien sûr.
Nous savons où il se trouve. Père Marie Castaignos, merci. Et peut-être un prochain passage dans quelques mois, à cette même période, dans notre radio. Merci.
Merci Nathalie.
Au revoir.